faire de grandes choses au milieu de nous. Il veut se manifester. On a chanté tout à l'heure, « Seigneur, montre-moi ta gloire. » On veut voir la gloire du Seigneur. Mais la gloire du Seigneur, c'est sa bonté. C'est sa bonté qui dure à toujours. Et le Seigneur veut nous montrer sa gloire ce matin. Il va manifester sa bonté dans son peuple ce matin, au milieu de nous. Alors, pour ceux et celles qui étaient ici la semaine passée, on a parlé sur la foi. On a vu que pour être agréable à Dieu, ça prend cet ingrédient absolument qui s'appelle la foi. Parce que c'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et on a vu que la foi, c'est une confiance, c'était d'être persuadé, c'est d'avoir une forte conviction de quelque chose. Donc, c'est tout sauf la foi aveugle. Et on a vu comment la foi agit aussi. Elle agit par répétition, par constance, dans les principes. On a vu aussi que la foi, c'est quelque chose de personnel. On ne peut pas exercer la foi pour un autre. C'est quelque chose vraiment de personnel. Quand Jésus guérissait, il disait souvent, « C'est ta foi qui t'a guéri. » Alors, la foi, c'est personnel. On va continuer ce matin encore dans un même flot, toujours en parlant de la foi. Mais ce matin, on va voir la foi d'Abraham. Là, vous allez dire, « Ah, mais là, Abraham, c'est bien beau. Je trouve ça bien le fun de lire à propos d'Abraham, mais ça fait longtemps qu'il est mort, il existait, il a vécu, mais il est parti depuis longtemps. » Qu'est-ce que la foi d'Abraham a à faire avec moi aujourd'hui, en 2003? Mais la parole de Dieu nous dit que la foi de ces patriotes, la foi de ces personnes-là qui nous ont précédés, nous sert d'exemple. Si on n'avait pas eu Abraham, si on n'avait pas eu des hommes et des femmes de foi, probablement qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. Alors, c'est leur foi, c'est leur fidélité à eux qui fait que nous sommes capables d'être ici aujourd'hui et d'entendre la merveilleuse parole. Alors, on va regarder un petit peu la foi d'Abraham. Dans Genèse, si vous avez vos Bibles, Genèse au chapitre 15 et le verset 6. Genèse 15 au verset 6. On lit, « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » C'est familier pour plusieurs d'entre nous, ce verset-là. Qu'Abraham eut confiance ou cru, si vous voulez, en l'Éternel qui lui imputa à justice. Alors, on va voir ce matin 5 choses qu'Abraham croyait. Parce que c'est clair qu'il croyait des choses précises. Parce que c'est ça qui lui a apporté la manifestation. Donc, on va voir des choses précises. On va voir 5 choses, entre autres, qu'Abraham a cru. La première de ces choses-là, c'est qu'Abraham a cru à une naissance surnaturelle. Alors, toujours dans Genèse, au chapitre 17, des versets 15 à 20. Abraham crut dans une naissance surnaturelle, la première chose qu'Abraham a cru. On lit au verset 15, « Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils, un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Ô qu'Ismaël vive devant ta face! » Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité d'après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. » Donc, il a dû croire en naissance surnaturelle. Le chapitre 21, toujours de Genèse, chapitre 21, les versets 1 à 7. On voit que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint sainte. Et elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit Abraham? Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » Donc, il a cru à une naissance surnaturelle. Puis on voit d'après l'âge, de nos personnages ici qu'en effet, c'était surnaturel. Alors, la deuxième chose qu'Abraham a cru, c'est qu'il a eu suffisamment confiance en Dieu pour lui offrir son fils unique en holocauste. Alors, toujours dans Genèse, maintenant, chapitre 22, le verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âme et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alors, ça lui est la deuxième chose qu'il a cru. La troisième chose qu'Abraham a cru, c'est qu'il a cru pendant 3 jours que son fils allait mourir. Voilà que Dieu lui accorde un enfant de promesse. Il va faire de lui de grandes nations, des peuples, des rois vont sortir de lui. Et voilà qu'il croit que pendant 3 jours, son fils va mourir. Au verset 4 du chapitre 22, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Alors, il a pensé pendant 3 jours, là, c'est certain que je vais être appelé probablement à perdre mon fils. La quatrième chose qu'Abraham a cru, il a cru que Dieu se pourvoira d'un agneau ou qu'il était pour ressusciter son fils d'entre les morts et lui donner une grande postérité à travers de son fils Isaac. Donc, on continue toujours au chapitre 22, on est au verset 7 et 8. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac parla à Abraham. Isaac parla à Abraham, son père dit, « Mon père, il répondit, me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, il a vraiment cru que Dieu ferait un ou l'autre. Ou il va se pourvoir d'un agneau, ou il va le ressusciter parce que c'est l'enfant de promesse. Il ne peut pas laisser ça comme ça. Il doit s'accomplir ce que l'Éternel a dit, que de lui, d'Isaac, va sortir une grande nation. Alors, on voit qu'il a cru dans une résurrection où il a cru que le Seigneur allait intervenir d'une façon miraculeuse. Il y a Hébreu aussi, tournez avec moi en Hébreu, au chapitre 11. Toujours des choses merveilleuses que l'Éternel avait promis, mais on voit un homme qui doit continuellement marcher par la foi. Parce que la promesse a été faite, mais là, ça semble être l'inverse qui veut se produire. La foi d'Abraham est vraiment éprouvée. Alors, on voit au chapitre 11 d'Hébreu, les versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Donc, il était un petit peu là, il ne savait pas trop comment ça allait se passer, comment ça allait se dérouler, mais il y avait une chose, il avait confiance en Dieu. Il avait confiance en ce que l'Éternel lui avait dit. La cinquième chose qu'il a cru, on retourne maintenant dans Genèse, toujours au chapitre 22, il a cru que sur cette montagne, Dieu allait se pourvoir de l'agneau. On l'a vu tout à l'heure, mais on va y revenir un petit peu. Genèse 22, le verset 8, nous dit toujours que Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Il était pas inquiet, ils marchaient tous les deux ensemble. Même Isaac n'était pas inquiet, il devait se demander, là. Un petit peu, mais il faisait confiance à son père, que son père faisait confiance en l'Éternel. Voyez-vous, Isaac avait été, évidemment, enseigné de par ses parents, une telle confiance en l'Éternel qu'il ne posait même pas de questions. Il a juste demandé, bien, un petit peu, c'est quoi, où est-ce qu'allait l'Holocauste, là? Il est où le bélier ou quoi? Qu'est-ce qu'on va marcher ensemble, Seigneur, il va s'en occuper, c'est lui qui va pourvoir à tout ça. Alors ça, c'est les choses qu'Abraham crut. Et parce qu'il a cru ces choses dans son cœur, c'est ça qui lui fut imputé à justice. Donc, on va regarder encore vitement. Qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru à une naissance surnaturelle. Il a eu suffisamment confiance en Dieu pour lui offrir son fils unique en holocauste. Il a cru pendant 3 jours que son fils allait mourir. Il a cru que Dieu allait se pourvoir d'un agneau pour l'holocauste ou qu'il était pour ressusciter son fils d'entre les morts et lui donner une grande postérité en Isaac, comme il lui avait été promis. Il a cru que sur cette même montagne où il adorait, que Dieu allait se pourvoir de l'agneau pour l'holocauste. Et c'est parce qu'il a cru à ces choses-là que ça lui était imputé à justice. C'est quoi finalement qui était imputé à justice à Abraham? Mais c'est sa foi dans les promesses de Dieu. une foi qui est adhérente, une foi qui est ferme, une foi qui est constante, qui persévère toujours dans les promesses. Dieu avait fait une promesse, « Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. » Ça, c'était écrit dans le ciel, puis il n'y avait rien pour changer ça. Même si les circonstances semblaient contraires à tout ça. Abraham s'est embrayé là-dedans, puis il a dit, « Moi, j'ai la foi en Dieu. J'ai la foi dans celui qui a fait les promesses. » Donc, on voit que la foi, ça s'établit dans une relation personnelle. C'est impossible d'avoir la foi dans quelqu'un ou dans quelque chose qu'on connaît peu ou qu'on connaît mal, que ce soit même dans le naturel. Si on veut avoir foi dans quelque chose, il faut qu'on ait entendu parler. Que ce soit un produit, par exemple, je prends des choses, par exemple, d'Adrien Gagnon, toutes les bonnes vitamines, toutes les bonnes choses. On sait que ça, c'est un nom qui est réputé. On va parler de ça à des culturistes, ils vont dire, « Ah, Adrien Gagnon, oui, je comprends, les protéines et toutes ces choses-là, c'est bon. » Alors, les gens vont acheter le produit. Pourquoi? Parce que la renommée de cette personne-là est faite. La réputation d'Adrien Gagnon est connue. Alors, les culturistes savent que c'est mettre. Donc, c'est la même chose. C'est impossible d'avoir la foi dans quelqu'un ou dans quelque chose si on n'a pas ou peu de connaissances. Alors, Abraham, c'est clair qu'il avait une belle relation personnelle avec le Seigneur, de telle façon qu'il faisait confiance, même au point de lui offrir son fils unique. C'est une relation qu'il faut cultiver aussi, parce que plus on va s'imprégner de la personne de Jésus, plus on va cultiver une relation avec lui qui est personnelle, mais plus on va développer une foi. Ça ne peut pas être autrement. Plus on l'aime, plus on veut découvrir qui il est, plus on est conscient, plus on a de l'information sur nos droits, sur nos privilèges, sur qui nous sommes en Christ, mais plus notre foi va se développer. Alors, c'est pas une foi aveugle, on parle pas de fanatisme, on parle vraiment d'une foi qui a une base. Et la base, c'est Jésus-Christ. Alors, on cultive une relation. Il faut apprendre aussi à gouverner nos expériences par la parole de Dieu. Trop souvent, on se fie à nos expériences. On peut avoir eu une très bonne expérience, on peut en avoir une moins bonne aussi. Mais il faut toujours que nos expériences soient gouvernées par la parole de Dieu. À l'exemple d'Abraham, par exemple, s'il avait gouverné son expérience d'après ce qu'il voyait dans le naturel, probablement qu'il n'aurait pas eu Isaac. Parce que, bon, son corps lui disait qu'il était usé, il était passé l'âge de concevoir des enfants, et son épouse n'était pas en meilleur état que lui, elle était stérile aussi. C'est pas qu'elle était stérile parce qu'elle était âgée, elle était stérile lorsqu'elle était une jeune femme. Point à la ligne, elle était stérile, cette femme-là, ne pouvait pas concevoir d'enfants. Alors, il a fallu qu'Abraham laisse de côté les obstacles, fasse de regarder dans le naturel, regarda son corps, regarda l'âge qu'il avait, celle de son épouse, a voulu qu'il fixe ses regards et qu'il gouverne son expérience par la parole de Dieu, par la promesse que Dieu lui avait faite qu'il allait avoir un héritier. Alors, on peut dire que la foi, bon, c'est un acte de repos. Des fois, on pense que la foi, là, c'est de s'énerver. C'est vraiment on veut vraiment produire, on pense qu'on peut produire des résultats, qu'on pense que la foi, c'est quelque chose, là, Dieu nous dit une promesse, on essaie de la faire venir, cette chose-là. Mais non, la foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est un repos, c'est un acte de repos. On se repose dans ce que Dieu nous a dit. On sait que l'œuvre de Dieu est accomplie, et c'est ses œuvres, c'est lui qui les accomplit, les œuvres. C'est lui qui a fait concevoir Abraham et Sarah. Il n'était pas capable de produire le surnaturel. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est avoir confiance dans la promesse de Dieu. Avoir confiance en celui qui avait fait la promesse. Mais il ne pouvait pas faire arriver la promesse. Alors, la foi, c'est un acte de repos. On se repose, sachant que c'est Dieu qui va accomplir l'œuvre qu'il veut faire. Alors, la foi, bien sûr, ça a un objectif. Sinon, ça n'a pas de raison d'être. S'il n'y a pas un but, s'il n'y a pas un objectif à la foi, il n'y a pas de raison. Alors, l'objectif de la foi, c'est de cesser nos œuvres et de se reposer par la foi sur la promesse de la foi, sur la promesse de celui qui a fait la... Non seulement on se repose sur la promesse, parce qu'on peut trouver plusieurs belles promesses dans la parole de Dieu. Dieu dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Plein de belles promesses. Je suis avec vous, et puis bon... Mais c'est pas suffisant d'avoir confiance en la promesse, mais il faut avoir confiance en celui qui a fait la promesse. Sachant que Dieu n'est pas un homme pour mentir. s'il a dit, il va l'accomplir. Mais pour, ça exige quand même une transformation de notre personne. Ça exige une transformation au niveau de notre âme. On a vu ça la semaine passée. Notre âme qui englobe le siège de nos émotions, nos sentiments. Parce que sinon, ça n'exigerait pas la foi. Et la foi et nos émotions, nos sentiments ne vont pas nécessairement ensemble. Ma tête va toujours me dire un raisonnement qui est faux, qui contredit la parole de Dieu. Alors, ça exige une transformation au niveau de mon intelligence. Il faut renouveler notre intelligence par la parole de Dieu, jusqu'à ce que ce raisonnement-là soit en ligne avec la parole de Dieu. Alors, ça exige vraiment une transformation pour être capable d'être vraiment dans la foi. Faut changer notre raisonnement, puis adapter le celui du Seigneur et se confier dans ses paroles, dans ses promesses. Alors, on retourne dans Hébreux maintenant, au chapitre 4. Hébreux au chapitre 4, le verset 1 à 3. On est toujours en train de parler du repos, ce qu'est la foi. La foi, ce n'est pas de s'énerver, ce n'est pas de produire quelque chose, mais c'est de laisser cette chose-là venir par les promesses, par la parole. Alors, c'est un repos, la foi. On voit dans Hébreux chapitre 4, les versets 1 à 3. « Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Voyez-vous? Il faut avoir cru, il faut avoir entendu. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut entendre la parole de Dieu, il faut exercer notre foi, il faut rentrer dans le repos. On dit, ah, c'est comme ça. C'est ça que tu m'as promis, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu as guéri. Par les meurtrissures de Jésus, mon corps est guéri. Alors, on n'essayera pas de produire la guérison. On va se reposer dans le fait, dans la promesse, dans le guérisseur qui a dit, par les meurtrissures de celui qui t'a guéri. Alors, on va exercer une foi tout à fait calme. On ne s'énervera pas. On ne regardera pas à tous les cinq minutes si les symptômes sont toujours là, si les rougeurs sont encore là, si on n'a pas disparu. On va se reposer du fait qu'il a dit qu'on est guéri par ces meurtrissures. Alors, c'est un repos. La foi, c'est un repos continuel. C'est une attitude. C'est un état d'être dans le repos. Il y a aussi dans Jacques, vous n'avez pas besoin de tourner, Jacques au chapitre 2 et le verset 17 qui nous dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Alors vous allez dire « Regarde, c'est une fois, je savais là, que ça s'en venait, il faut faire des œuvres en quelque part. » Non, l'œuvre, c'est de se reposer. C'est de faire confiance. C'est ça la vraie foi. C'est un repos total dans la parole de Dieu, dans ses promesses. Un repos total, une confiance totale en celui qui a fait les promesses. Alors, cette sorte de foi-là, la véritable foi va atteindre son but et la manifestation va être vue par tous les autres, par tout le monde. On sait dans le cas d'Abraham, par exemple, que tout le monde a vu la manifestation. Il y a probablement plusieurs personnes qui ont ri de lui quand ils ont dit, ben écoutez, là, le Seigneur nous a promis une grande famille. Ah oui, t'en as combien jusqu'à présent d'enfants? Bien, on n'a pas tant tout. Ma femme est stérile en plus. Ah oui, puis regarde-moi l'âge que vous avez. Vous autres allez avoir des enfants. J'imagine la réaction. Mais il fallait qu'Abraham et Sarah soient vraiment confiants. Il fallait vraiment qu'il y ait un front des reins là, pour être capable de se tenir devant les gens qui les ridiculisaient. Alors, ça demande pour nous la même chose. Et si Abraham s'était laissé à ses sentiments, s'il avait regardé à l'impossibilité, probablement qu'Isaac n'aurait pas été conçu, parce que ça n'a pas été seulement un acte dans le naturel, mais c'était surnaturel, du fait même qu'il ne pouvait pas concevoir d'enfant. Alors, Dieu nous demande à nous la même chose qu'il demande à Abraham. Mais là, les femmes, paniquez pas. Il ne vous demandera pas de concevoir un enfant dans votre vieillesse. Ça, c'est fait. L'enfant de promesse est venu. Isaac a été conçu, et puis est devenu, comme le Seigneur avait dit, Abraham est devenu le père d'une grande nation, d'une multitude. Et en lui, en Abraham, nous sommes bénis. Mais le Seigneur nous demande la même chose, les mêmes principes en tout cas qu'Abraham. Qu'est-ce qu'il nous demande à nous? Il nous demande à nous de croire que Christ a fait une alliance avec son Père. S'il trouvait personne sur la terre avec qui il pouvait couper, trancher une alliance. Vous savez, une alliance, que c'est qu'on va voir, par exemple, dans d'autres pays, dans des tribus. Il y a deux tribus, par exemple, qui vont faire une alliance entre eux. Bon, ben, il y en a qui ont des provisions, des choses matérielles. L'autre, il y a des armements, des épées, des couteaux et tout ça. Alors, ils font une alliance entre eux, puis ils vont dire, ben, écoute, tout ce que toi, tu as besoin en tant que nous, que provision, viens chercher dans mon peuple, puis on va faire la même chose avec toi. Si on a besoin, puis on est attaqué en cas de guerre, tous nos fusils, tu peux prendre tout notre armement. Il y a une entente, là, il y a une alliance, puis ils ne peuvent pas la briser. C'est vraiment une alliance qui est entre eux deux. Alors, le Seigneur Dieu, c'est sûr qu'il ne pouvait pas trouver personne sur la terre pour faire une alliance avec lui. Donc, Dieu le Père a fait une alliance, a tranché une alliance avec son Fils Jésus. Alors, il faut croire que Christ a fait cette alliance-là avec son Père. Il faut croire que l'œuvre de Jésus est tout accomplie. On se souvient qu'au calvaire, qu'est-ce que Jésus a dit? Père, tout est accompli. Donc, il ne reste plus rien à accomplir. C'est un salut qui est total. C'est pas simplement un billet, c'est pas simplement une police d'assurance pour échapper au feu là, qu'on a eu en tant que salut. Mais c'est un salut qui est vaste, un salut qui est grand, un salut qui comprend la prospérité, un salut qui englobe les maladies, c'est-à-dire qu'on est guéri. Il a fait provision pour nous de nos corps physiques, il a fait provision de tout ce dont on a besoin. Donc, c'est un salut qui est grand, un salut qui est vaste. Ça inclut la protection, ça inclut notre joie, ça inclut tout ça est dans le mot « salut ». Alors, il faut croire que l'œuvre de Jésus est tout accomplie et il nous faut rentrer dans cette alliance-là par la foi. Elle était faite, l'alliance, entre le Père et le Fils. Mais nous, comme enfants, comme croyants, comme enfants de Dieu, c'est à nous d'entrer dans cette alliance-là. C'est à nous d'accepter aussi que Jésus est notre substitut. C'est lui qui est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Et si vous êtes capable à la maison, vous pouvez peut-être retourner dans Genèse et relire un petit peu, puis on a vu que oui, quand Abraham est arrivé pour immoler son fils, il a levé le couteau, puis un ange qui l'a arrêté, puis il dit, fais pas ça, je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Et puis, il y avait justement un bélier qui était là, qui était pris par les cornes. Alors, c'est vrai que Dieu, il avait trouvé un substitut pour Isaac. Il ne faisait pas juste croire vaguement, ben là, j'espère qu'à quelque part, il y a une bébite de pognon à quelque part, là, parce que ça va aller mal, on n'aura pas de locos. Non, il y en avait un bélier, là. Il avait cru tout le temps, il disait à son fils, Isaac, n'arrête pas, inquiète-toi pas pour le locos. On a le bois, on a le couteau, on a tout ce qu'il faut. Tout ce qui manque, c'est finalement, c'est le sacrifice. Alors, le fameux bélier était retenu là par les cornes, et au moment propice, ils l'ont vu. Ils ont pris le bélier, puis ils l'ont offert en offrande, en sacrifice. Alors, il faut croire que Jésus est devenu notre substitut. Il est l'agneau qui a été immolé pour nous. Alors, la foi, c'est pas de s'énerver, c'est pas d'essayer de produire quelque chose, c'est de croire que ça a été fait pour nous. Et la parole de Dieu nous dit que seuls les enfants d'Abraham, vous savez, on n'est pas tous enfants de Dieu, mais seulement ceux qui ont cru dans la promesse. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que racheté, en tant que croyant, oui, nous participons aux promesses d'Abraham. Nous participons à l'héritage d'Abraham. Mais c'est seulement ceux qui ont cru. Parce que c'est pas tous qui sont appelés enfants de Dieu, là. C'est seulement ceux qui ont cru, qui ont fait confiance, comme Abraham a fait confiance. Alors, le Seigneur nous demande de faire la même confiance, d'avoir la même confiance en lui qu'Abraham a eue. Et puis, c'est encourageant de savoir que nous, en tant qu'Église, en tant que croyants, on a une meilleure alliance basée sur des meilleures promesses. Si Abraham était capable de faire confiance à Dieu, à l'Éternel, basée sur l'alliance qu'il avait, parce que c'est un homme des choses à venir, Jésus n'était pas venu encore, la croix n'avait pas eu lieu, le sacrifice, on a une meilleure alliance avec des meilleures promesses. Nous, Jésus est venu. Il s'est immolé pour nous, il est mort pour nous, il est ressuscité pour notre justification, puis il est retourné, puis il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Mais non seulement ça, il nous a envoyé son Saint-Esprit qui est en nous. Alors on a la personne même de Dieu qui habite en nous. Alors si Abraham était capable de faire confiance en Dieu, s'il était capable d'avoir la foi dans un Dieu qui était quasi invisible là, pour lui, parce que bon, il y avait plein de choses qui s'étaient pas. Il y avait des promesses d'un Messie, mais le Messie n'était toujours pas venu. Le Saint-Esprit n'était pas donné encore. Alors, si on pouvait faire confiance dans une alliance comme ça, c'est d'autant plus important aujourd'hui, puis encourageant pour nous aujourd'hui de mettre notre foi dans le Seigneur Jésus, parce qu'il a tout accompli pour nous, notre salut. Eux autres voyaient juste à distance, si on veut. Ils voyaient la promesse d'un Messie. Ils ne comprenaient pas tous l'enjeu de ça, mais ils savaient qu'il y a un Messie, il y a un Rédempteur qui devait venir les délivrer. Il est venu, et c'est Jésus-Christ. Il est mort, il a versé son sang pour nous. Alors, c'était possible pour eux de croire, c'est possible pour nous, d'autant plus de croire aujourd'hui, sachant qu'on est basé sur une alliance meilleure, basé sur de meilleures promesses, sachant que le plus grand vit en nous. On n'est pas les orphelins, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Tout ce qui est requis de nous, c'est d'avoir cette foi-là. Cette foi qui se repose, pas une foi qui est agitée, une foi qui est énervée, une foi qui est chancelante. Parce que Jacques nous dit que si on a cette sorte de foi-là, comme les flots de la mer, on ne verra pas nos réponses. Ça prend une foi qui est stable, ça prend une foi qui est constante dans les promesses et dans celui qui a fait la promesse. Alors, on a grand Dieu. On a toutes les raisons d'exercer une foi. Des fois, on a vu, j'ai remarqué ça des fois dans les églises, que les gens perçoivent la foi quasiment comme un sacrifice, là, quasiment comme quelque chose, là. Ah, ben oui, mais là, il faut que j'aille la foi, là, pour passer en travers de ça. Non! On doit avoir la foi, puis c'est quelque chose de merveilleux, la foi, parce qu'on a des promesses. On n'a pas, c'est pas une foi vide, c'est pas une foi fanatique, c'est pas une foi aveugle qu'on exerce. On exerce la foi dans le grand Dieu, dans le roi des rois. Il a envoyé son Fils, le Père éternel, il a envoyé son Fils pour nous. Il est mort pour nous. Il a pris notre place. Alors, on n'exerce pas une foi aveugle. On exerce une foi en Dieu, sachant que c'est lui. C'est lui qui produit l'œuvre de la foi. Nous, tout ce qui est exigé de nous, c'est d'avoir la foi. C'est lui qui fait le gros bout. C'est lui qui fait l'impossible. C'est lui qui amène le surnaturel. C'est lui qui amène la guérison. C'est lui qui nous amène la paix, la joie, la réconciliation dans nos familles, dans nos relations. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on lui fasse assez confiance. Mais on a vu tout à l'heure que ça dépend de nous. La foi, c'est quelque chose de personnel, mais c'est basé sur la relation qu'on a développée avec lui. Si on le connaît peu, on va lui faire peu confiance. Alors, on va avoir une petite foi. Mais si on développe par exprès une relation avec lui. On passe du temps dans sa parole. On passe du temps à le louer. On passe du temps à le découvrir. Découvrir sa merveilleuse personne. Découvrir nos droits d'alliance. Découvrir nos privilèges. Découvrir le nom puissant de Jésus. L'autorité, le pouvoir qu'il y a derrière ce nom-là. Ça va être facile d'exercer la foi. On va avoir une foi qui est grandissante. C'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas qu'on ait une foi qui demeure toujours au même niveau. Il nous a donné une mesure de foi, mais il veut qu'on exerce la mesure de foi, que notre foi soit grandissante. Et la manifestation, les autres vont le voir. Notre foi va influencer les autres, comme on a vu la semaine passée. On avait regardé ça un petit peu la semaine passée, que non seulement notre foi va nous servir à nous, parce qu'on a besoin de foi, mais elle va servir aux autres. Elle va édifier, elle va bâtir, elle va produire des résultats chez les autres. On a vu tout à l'heure dans notre texte qu'eux aussi avaient entendu dans Hébreu, mais ça leur servit de rien. Pourquoi? Ils n'ont pas cru. La parole leur servit de rien parce qu'ils n'ont pas cru. Donc, on peut venir à l'église dimanche après dimanche. On peut entendre des bons messages chaque dimanche. Ça va nous servir de rien parce que si on ne croit pas, si on ne met pas en pratique la parole, ça ne donne rien. La parole de Dieu dans Jacques nous exhorte, nous encourage à ne pas être des auditeurs oublieux, mais de mettre la parole en pratique. C'est en la mettant en pratique qu'on va exercer notre foi. Puis oui, c'est à travers des épreuves. Parce que pour exercer notre foi, il faut qu'il y ait quelque chose là pour l'exercer. Il y a quelque chose là qui va brimer notre confort, qui va brimer quelque chose. C'est pour ça qu'on exerce la foi. Parce que tout va bien tout le temps. Je ne suis pas prêt à vous dire que le Seigneur l'a fait exprès, puis il va vous envoyer des affaires cette semaine, puis des épreuves à finir pour voir si vous êtes dans la foi. Mais il a dit que ces choses-là vont venir, les tentations vont venir, les épreuves, des temps difficiles qui s'en viennent sur la terre, des moments où que ça va demander vraiment que l'Église se lève et prenne position, qu'on soit capable d'exercer une foi en Dieu, une croyance, exercer une confiance en lui. Qu'on questionnera même pas les choses qu'il va nous demander. On a tellement développé une relation profonde avec lui que ça va être oui et amen. Tout ce que le Seigneur nous demande, oui, on se lève comme des bons soldats. On va porter la bannière de Christ là où le Seigneur veut que nous la portions. Alors, on doit exercer la foi. C'est quelque chose d'important, de nécessaire. C'est la survie de l'Église. C'est la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. On peut faire tous les efforts, on peut faire toutes les œuvres qu'on peut s'imaginer. Mais si on n'a pas la foi avec ça, c'est impossible de lui être agréable. Alors, je sais que son peuple veut être agréable à Dieu. Je sais que l'Église, un matin, vous voulez être agréable à Dieu. Tout ce qu'il vous demande, c'est de vous reposer en lui. C'est simple, hein? Facile? On se repose. Se reposer tout simplement en lui, dans ses promesses, dans celui qui a fait les promesses. Il est garant de sa parole. Si il était capable de faire les promesses, il est capable de les garder. Sa parole. C'est lui qui confirme sa parole. Quand on met les mains sur les malades, c'est nous qui les guérissons. On est tout simplement une extension de Jésus, une extension de son amour, une extension, un reflet de ce que Jésus veut. Lorsqu'il était sur la terre, il mettait ses mains sur les malades et les malades guérissaient. Aujourd'hui, il a dit à l'Église, « Allez, faites la même chose. » Il nous a mandaté à nous de faire les choses que lui faisait. Tout ce qu'on est, c'est une extension de son amour, une extension visible. On chantait tout à l'heure, « Je veux te voir, Seigneur. » On peut voir Jésus dans son Église. On le voit dans les uns les autres. On le voit par l'amour qu'on manifeste entre nous. On le voit par le zèle qu'on a. On voit un malade, on ne laisse pas ça comme ça. On s'en va, on prie pour ce malade-là. On sait que le Seigneur va le guérir parce que sa parole le dit. Alors, on n'a pas besoin de craindre. On n'a pas besoin d'avoir peur de dire, ben là, je ne sais pas si je mets ma main, si c'est malade, si vraiment. Non, ce n'est pas par nous. Ce n'est pas par nos vertus. Ce n'est pas par notre puissance à nous. C'est lui qui le fait afin qu'il retire toute la gloire parce que c'est, la gloire revient à lui seul. On n'est rien sans lui. On n'a rien à offrir sans lui. C'est lui qui est notre substitut. C'est lui qui est l'agneau de Dieu. C'est lui qui doit œuvrer en travers de nous, en travers de son Église. C'est son désir. Alors, exerçons la foi. Regarde, on n'approchera plus la foi avec une connotation des fois négative, comme on peut avoir fait dans le passé. Et puis, transpirer à grosses gouttes, là, puis vraiment s'essuyer, puis se demander, j'ai-tu assez de foi? Je n'ai-tu un petit peu? Je n'ai-tu moins? Je n'ai-tu suffisamment? Si on a assez de foi pour demander, on a assez de foi pour recevoir. La madame, la seule qui avait été atteinte d'une perte de sang, tout ce qu'elle a dit, c'est « je peux toucher le bord de son vêtement ». Elle espérait même pas toucher au maître en personne. Peut-être qu'elle se trouvait trop indigne pour le toucher, parce qu'elle avait une perte de sang. Puis la loi, à l'époque, disait que ces gens-là, cette dame-là, n'avait même pas le droit de sortir en public. Alors elle s'est dit « je ne me toucherai pas, mais si je peux au moins toucher le bord de son vêtement, je vais être guérie ». Alors, le Seigneur nous il n'en demande pas beaucoup. Il n'en demandait pas beaucoup. Juste toucher le bord du vêtement, puis il a sorti une puissance de lui. Il a dégagé une vertu, une puissance de lui. Puis cette femme-là, elle était guérie. Alors, apprenons à exercer la foi. Si on veut être vraiment des conquérants, on veut vraiment vivre selon la parole de Dieu. Il faut apprendre à vivre selon les principes. Et un des principes de la parole de Dieu, un des principes du royaume de Dieu, c'est la foi. Alors, apprenons à exercer notre foi. Il ne faut pas, quand il vient une épreuve, qu'il vient quelque chose, une tentation, quelque chose qui nous contrarie, il ne faut pas regarder ça négatif puis vouloir repousser ça, dire pourquoi ça m'arrive. Non, c'est un exercice à ma foi. Le Seigneur permet ça dans ma vie pour exercer ma foi. Il veut qu'elle grandisse parce que la parole de Dieu dit que notre foi est plus précise que l'or qui a été éprouvé par le feu. Alors, on va envisager d'une façon différente. Quand l'épreuve vient, la foi est là. La grâce est là. Alors, on va se confier toujours dans le merveilleux nom du Seigneur, parce qu'en sachant que son nom est élevé au-dessus de tout nom, c'est lui qui produit l'œuvre qu'on ne peut pas produire. Le surnaturel vient de lui. Il va l'accomplir en nous par la foi. Alors, on se repose. On va se reposer cette semaine. On ne s'énervera pas, on ne s'excitera pas. On va se reposer et on va être trouvé en foi. Alors, on va être trouvé agréable devant Dieu. Alors, levez-vous ce matin et si Mélanie veut venir, s'il vous plaît, comme on fait tous les dimanches, on fait toujours une invitation au salut. Probablement que pour la plupart de vous qui êtes ici ce matin, vous connaissez, on connaît le Seigneur Jésus, on est entré en alliance avec lui, on le connaît de façon personnelle. Mais s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne le connaît pas, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui est ici et dit, ben moi, j'ai pas une assurance comme ça, là, personnelle, de si je mourais, si je devais passer de l'autre bord aujourd'hui, de l'autre côté, je ne suis pas certain de ma place avec le Seigneur. J'ai entendu parler de lui, je ne parle pas de religion, je parle d'une relation. D'avoir entendu parler du Seigneur Jésus, ça ne nous fait pas enfant de Dieu, d'avoir entendu parler de son amour, d'avoir entendu parler de son sacrifice à la croix. C'est pas ça qui fait de nous un enfant de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il faut croire dans le cœur, il faut confesser de la bouche pour parvenir au salut. Alors, s'il y a quelqu'un ici ce matin, avec tous les yeux fermés, s'il vous plaît, dans le plus grand respect, on est devant le Seigneur. On n'est pas ici pour s'examiner les uns les autres. On n'est pas ici pour se juger les uns les autres. Mais on est ici vraiment devant notre Créateur. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'est pas certain de sa place au ciel, qui n'est pas certain qu'il y a ce genre de relation personnelle avec le Seigneur, je vous inviterai à lever votre main, s'il vous plaît, puis on va prier pour vous. On va prier pour vous, puis vous allez avoir la certitude. Vous allez devenir enfant de Dieu. Parce que la foi dit que, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'est pas certain de sa place, qui n'est pas certain que Jésus a payé pour lui, qui n'est pas certain qu'il est lavé dans le sang de Jésus. Si on n'est pas certain, c'est parce qu'on n'est pas né de nouveau. Parce que la parole de Dieu nous dit que le témoin, l'Esprit Saint est en dedans de nous, puis c'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, si quelqu'un a levé la main, s'il vous plaît, on va prier pour vous. Sinon, si on est tous des enfants de Dieu, on est tous des croyants ce matin, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des besoins. Si vous avez un besoin ce matin, parce qu'habituellement, on vient à l'église, oui, pour louer le Seigneur. On vient à l'église pour apporter nos louanges, apporter nos sacrifices, nos actions de grâce à lui. Mais on vient pour entendre sa parole, on vient avec des besoins aussi. Les multitudes qui venaient à Jésus, qui accouraient à lui parce qu'il avait un besoin. Il avait besoin de guérison, il avait besoin d'être délivré, il avait besoin d'une touche du Maître. Alors Jésus est ici ce matin, sa présence glorieuse est au milieu de nous ce matin. Alors si vous avez un besoin, si vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit, vous avez besoin de guérison dans votre corps physique, vous avez besoin d'être de stabilité dans votre vie, avancez-vous tout simplement ce matin, sans gêne, puis on va prier pour vous. Le Seigneur est fidèle, il va rejoindre.